Bonjour, c'est pour l'heure un chantier, mais c'est aussi le bâtiment le plus visité de Barcelone. La fameuse Sagrada Familia, l'église un peu folle de Gaudi, est désormais une basilique. Elle a été consacrée ce matin par le pape Benoît XVI. Les Grecs aux urnes ce dimanche vont-ils voter pour ou contre leur gouvernement, pour ou contre les mesures d'austérité, ou simplement pour leur maire, ou encore contre le gouvernement ou le nouveau système de répartition territoriale? Bien malin qui pourra analyser un scrutin régional qui s'annonce illisible. Roger Federer va-t-il l'emporter pour la quatrième fois à Bâle, sa ville fétiche? Pas si sûr, il le dit lui-même. Face à Novak Djokovic, cela se jouera sur un rien. Relire les grands textes de la Bible à l'Iliade pour faire de la place à l'imaginaire ou à l'irrationnel, c'est ce que nous propose dans son dernier livre « L'appel de l'ombre » Thérèse Delpech. Elle est agrégée de philosophie et directeur des études stratégiques à la Commission pour l'énergie atomique. Elle est l'invitée tout à l'heure de Haute Définition. Les pluies sont bien là et désormais elles sont là sur l'ensemble de la Suisse romande. Seul le Valais est encore peut-être en sursis. La neige pourrait même descendre ce soir jusque vers 1000 mètres. Et ce type de temps très perturbé va continuer demain lundi. Les détails, c'est avec Pascal Bénard et Météo Suisse, juste en fin de journal. Le pape Benoît XVI a donc consacré cette incroyable église, cathédrale d'un autre type, voulue par le célèbre architecte catalan Gaudi, commencée il y a 128 ans. Une œuvre un peu folle dont Gaudi n'aura vu que les premières pierres avant de décéder en 1926. En consacrant la Sagrada Familia, église symbole des valeurs traditionnelles de la famille catholique, le pape en fait aussi le symbole de sa démarche de reconquête des catholiques espagnols. Valérie Demont.
Cela faisait 28 ans qu'un pape ne s'était pas rendu à Barcelone. L'élévation au rang de basilique de la Sagrada Familia ne revêt donc encore que plus d'importance et de signification. Véritable attraction touristique avec 3 millions de visites chaque année, la Sagrada Familia du génial architecte catholique Antonio Gaudi est donc une occasion idéale pour mettre en avant la beauté d'un lieu chrétien et son appellation de Sainte Famille. Le pape Benoît XVI, très attaché à la relation entre la beauté de l'art et la foi, montre donc aujourd'hui au monde entier ce qui est considéré par l'archevêché de Barcelone comme une catéchèse en pierre. Le cardinal de Barcelone compare même l'impact de cette visite du pape à celle des Jeux Olympiques de 1992 qui s'étaient déroulés dans la capitale catalane. Rien de tel donc pour insister sur l'importance d'une nouvelle évangélisation en Europe et particulièrement en Espagne, car Benoît XVI reste très préoccupé par la laïcisation de ce pays et les conséquences des lois progressistes du gouvernement socialiste espagnol. Valérie Demont, Radio Suisse Romande, Madrid.
Autre symbole, mais d'un tout autre genre, le train qui ramène en Allemagne les déchets irrécupérables, fruit du retraitement du combustible nucléaire des centrales allemandes à l'usine française de La Hague. Un train qui provoque une mobilisation générale des antinucléaires. Reportage Blandine Milsan.
8h ce matin, dernier préparatif des antinucléaires. On donne les derniers conseils aux manifestants. Comment s'asseoir sur la route ou sur la voie pour retarder le convoi de déchets nucléaires. Jeannette fait cela pour la première fois.
On serre les bras sous les genoux. Après, je fais rien, j'attends.
Vous avez peur ?
Un petit peu, oui.
Faire un sitting, c'est l'une des actions des antinucléaires. L'autre tactique très en vogue, c'est aussi de tenter par petits groupes de retirer le ballast, les cailloux, des voies pour empêcher le train de passer. Des premiers incidents ont été signalés ce matin, non loin du centre de stockage de Gorleben, où la police a eu recours au gaz lacrymogène et au canon à eau pour déloger les manifestants qui se trouvaient sur les voies. Le train se trouve maintenant à plus d'une centaine de kilomètres de Dannenberg, où il devrait arriver dans l'après-midi. Blandine Milsan, Radio Suisse Romande, à Dannenberg.
La Grèce, aux urnes ce dimanche, pour ce qui n'est qu'un scrutin régional, à savoir l'élection des maires et des présidents de région, mais tout cela, bien sûr, sur fond de crise économique et de restrictions budgétaires. Un scrutin qui pourrait donc tourner au vote sanction, d'autant plus Angélique Kourounis que le Premier ministre Georges Papandréou a lui-même déclaré qu'en cas de défaite, il pourrait convoquer des élections législatives anticipées.
Oui, en fait, il a été un peu moins clair, c'est-à-dire qu'il a dit si le vote, le résultat du vote n'est pas favorable, je n'hésiterai pas à réorganiser des élections législatives. Ça, c'est quelque chose qu'il a annoncé lundi dernier, donc les Grecs sont vraiment tombés du lit en apprenant ça, parce qu'il n'a aucune raison objective, avec 160 députés sur 300 au Parlement, d'organiser des élections législatives, même si le vote lui est très, très défavorable. La Constitution ne l'oblige pas du tout à cela. Donc c'est quelque chose qui est très dangereux, parce parce que là, il s'est pris lui-même à son propre piège. Si le résultat est favorable, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire oui, je fais des élections. Et alors, dans ces cas-là, c'est vraiment un gros problème parce que on a eu des élections il y a moins d'un an. Et l'autre problème, c'est que les Grecs se sentent piégés parce que c'est plus sur des élections locales qu'ils vont se prononcer, mais sur pour ou contre Papandréou, pour ou contre de nouvelles élections.
À vous entendre, Angélique Kourounis, le risque est donc que le résultat de ces élections régionales soit illisible.
Ah, il sera totalement illisible parce que si le vote est très défavorable, les adversaires de Papandréou vont dire « Ah ben on a voté contre Papandréou, contre le référendum ». Si le vote est favorable, on va dire « Ah ben on a approuvé la mesure d'austérité, on va continuer » alors qu'en fait peut-être que les gens ont simplement dit « Non, on ne veut pas de nouvelles élections ». Le résultat est de toute façon faussé. Le résultat, on ne saura pas qui a voté quoi pourquoi, d'autant qu'il n'y a plus, pour raison d'économie, de sondage à la sortie des urnes. Donc on ne va pas vraiment savoir ce qui se passe.
Voilà qui promet. Merci Angélique Kourounis, notre correspondante permanente à Athènes. Et puis élection encore, mais cette fois-ci en Afrique, en Guinée. Les Guinéens qui votent pour choisir leur premier président démocratiquement élu de leur histoire. C'est le deuxième tour du scrutin et c'est l'épilogue d'une campagne marquée par des violences politico-ethniques. Maureen Grisot.
Plus de 4 millions de Guinéens appelés à voter aujourd'hui pour leur président. Depuis 7 heures, les électeurs attendent carte à la main devant les bureaux de vote. Les files d'attente s'allongent et ici à Matoto, dans la banlieue de Conakry, on sent que les électeurs sont fatigués d'attendre. À l'intérieur des bureaux, il y a beaucoup de formalités. Tout le monde craint des accusations de fraude. Donc on vérifie scrupuleusement les papiers des votants. Une fois que l'enveloppe est mise dans l'urne, celui qui a voté trempe son doigt dans de l'encre indélébile. Ces électeurs sont parfois hésitants dans la marche à suivre. On voit bien qu'ils ne sont pas habitués. Il faut dire que depuis leur indépendance, c'est la première fois que les Guinéens ont l'occasion de voter après une campagne électorale libre. Devant chaque bureau, un garde de la force de sécurisation du scrutin veille. Cette journée est sous surveillance après les violences qui ont opposé les partisans des deux candidats à la présidence. Ces dernières semaines, les communautés peu, les malinqués se sont affrontés à plusieurs occasions et beaucoup craignent une flambée de cette haine avant la proclamation des résultats attendus pour mercredi.
Et d'élections, il faut encore parler avec celles qui se déroulent en Birmanie. Pour la première fois depuis 20 ans, les citoyens de ce pays dirigés par une junte militaire totalitaire vont élire leurs représentants. Mais la campagne n'est pas libre et les partis d'opposition doivent faire face à d'innombrables restrictions. Autant dire que le résultat ne fait guère de doute. Reportage à Rangoon, Rémi Favre.
6 heures, les rues sont calmes dans le centre-ville de Rangoon. Peu d'électeurs se déplacent pour voter dès l'ouverture du scrutin. Dans les bureaux, pas d'isoloir, pas de rideau, le vote n'est pas secret. Dr Tan Yen, dirigeant de la Force démocratique nationale, le principal parti d'opposition en course.
I had in Tenganyo Township.
Dans un township à Tinkunyong, j'ai entendu dire que les membres de notre parti ont vu qu'il y avait dans l'urne 2 ou 3 bulletins avant que les opérations de vote ne commencent. Évidemment, ils ont protesté.
Protester, mais qu'est-ce que cela peut changer? Ces derniers jours, le vote par avance également a été entaché d'irrégularités en faveur de l'USDP, le parti des militaires.
Les autorités qui sont de mèche avec l'USDP sont allées dans des villages pour dire aux gens de voter avant le jour de l'élection. Les gens doivent faire ce qu'on leur demande de faire. Et ils disent qu'ils doivent voter pour l'USDP.
D'après un diplomate occidental à Rangoon, la fraude électorale est une sécurité pour les militaires qui, de toute façon, ont tout prévu bien en avance pour s'assurer la victoire. Rémi Favre, Radio Suisse Romande, Rangoon.
Et en bref, encore à l'étranger, l'Iran est prêt à reprendre en Turquie les négociations avec les grandes puissances sur la question nucléaire, interrompue depuis un an. Annonce a été faite aujourd'hui par le ministre iranien des Affaires étrangères. Et puis 2 soldats de l'OTAN ont été tués ce matin lors d'attaques des insurgés dans l'est de l'Afghanistan, ce qui porte à 626 le nombre de militaires étrangers tués dans le conflit afghan depuis le début de l'année. En Suisse, Micheline Calmiret veut proposer l'adhésion de la Suisse au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon elle, cela renforcerait le poids de la Confédération sur le plan international. La conseillère fédérale posera la question à ses collègues de l'exécutif, soit du Conseil fédéral, lors d'une prochaine séance. L'initiative de l'UDC pour le renvoi des étrangers criminels a donné lieu hier à plusieurs manifestations. À Berne, un artiste a mis en scène de façon satirique des expulsions, tandis qu'à Zurich, des partisans de l'initiative ont lâché 1500 ballons. À Genève et Lausanne, respectivement 300 et 500 personnes, surtout des jeunes, ont défilé dans les rues pour dénoncer le caractère discriminatoire et raciste de l'initiative. En Valais, la veillée cantonale des Patois s'est déroulée hier soir à Comtet. C'est l'occasion de constater, au travers des productions de jeunes, de sociétés, d'artistes ou de présentations de documents audiovisuels, eh bien que le Patois se refuse à disparaître. Pour le président du Conseil du Patois, l'ancien conseiller d'État valaisan Bernard Bornet, la pérennité du Patois devra pourtant passer par l'école, il l'a dit à Claude Desfagots.
Essentiel, incontournable. Si on ne peut pas amener les jeunes générations vers le patois et le patois aux jeunes générations, il n'y a plus qu'à regarder les revues nécrologiques.
Mais les enseignants vont vous dire, on a autre chose à faire que du patois.
Bien sûr qu'ils vont le dire, mais ce qui est prévu, c'est que d'abord nous avons les universités populaires. Cette année avec 173 élèves, c'est magnifique. Mais dans l'école, ce serait important en dehors de la grille horaire.
Les jeunes, c'est aussi aujourd'hui les réseaux sociaux, hein, c'est Facebook, Twitter, les SMS, les textos, comme on dit en français. C'est aussi un créneau que vous voulez utiliser.
Je tiens beaucoup à ce que les jeunes qui ont toujours dans leur serviette et dans leur poche leur portable puissent utiliser, en ayant déjà un patois basique, et communiquer à travers tous ces moyens avec des mots patois.
Le patois, le SMS en patois, tout un programme décidément. Allez, on passe au sport en tennis avec Roger Federer qui est au défi cet après-midi, celui de faire plaisir à son public en remportant le tournoi de Bâle. Ce serait d'ailleurs un quatrième titre dans sa ville fétiche. Pour cela, il affrontera Novak Djokovic, ce sera à 15h. Et ça n'est pas gagné d'avance puisqu'entre les deux joueurs, les rencontres se jouent souvent à quelques détails près. Roger Federer se souvient parfaitement de leur dernier affrontement serré.
On a eu une un peu plus... sévère, c'est en finale, je crois, à Cincinnati l'année dernière. Mais aussi là, il a eu sa chance au deuxième set. Alors, d'habitude, quand on se joue, soit moi, soit lui, à un moment donné dans le match, on commence à trouver le jeu et c'est là où, après, on est en forme et super dangereux pour l'adversaire. Bien sûr, un début de match, c'est toujours super important. Mais c'est vrai, si on regarde dans l'histoire de nos matchs, ils étaient toujours plutôt serrés. Voilà, il prend la balle aussi super tôt comme moi. On essaie de faire le jeu. On est très athlétique, alors il y a quand même des points en commun. Bon, après, il y a une grande différence après que j'ai un revers à une main et lui à deux mains. Voilà, alors on verra qu'est-ce que ça donne, mais j'espère, avec le public dans le dos, après avoir perdu l'année dernière, qu'ils seront là.
Roger Federer donc interviewé par Hervé Boursier. Les résultats, vous les suivrez dans nos bulletins horaires de cet après-midi. Sachez encore que les enquêteurs australiens chargés d'analyser les causes de l'avarie moteur subie par un Airbus A380 de Qantas qui l'a contraint à atterrir d'urgence, c'était jeudi à Singapour, et bien ces enquêteurs appellent la population de l'île de Batam à rapporter à la police tous les débris découverts, notamment un fragment de disque d'une turbine qui pourrait être crucial pour comprendre la cause de l'avarie. Et puis enfin, la famille royale d'Angleterre, déjà utilisatrice régulière de Twitter et de YouTube, possède désormais sa page sur Facebook. Elle sera accessible dès demain, dit Buckingham Palace. La famille royale y a mis en ligne des photos, des vidéos, des nouvelles et des discours de la reine Elisabeth II, ainsi que de l'héritier du trône, le prince Charles, et de ses deux fils, William et Harry. Mais attention, les utilisateurs de Facebook ne pourront pas poster de commentaires, ni entrer en contact, ni surtout devenir ami avec la famille royale. Voilà, Haute Définition, votre rendez-vous réflexion du dimanche, relire les grands textes de la Bible ou de l'Iliade encore, tout cela pour faire place à l'imaginaire et à l'irrationnel, c'est ce que nous propose dans son dernier livre, L'Appel de l'Ombre, Thérèse Delpech. Thérèse Delpech, elle est agrégée de philosophie, elle est directeure des études stratégiques à la Commission pour l'énergie atomique, elle est l'invitée de Haute Définition.
Haute Définition, Manuela Salvi.
Nous étouffons sous le poids de la raison, l'humanité manque d'espace et d'air pur. Quelle place faut-il laisser à l'irrationnel et à sa puissance? Quelle place faut-il laisser à l'intuition et à l'imagination? La violence qui gangrène nos sociétés n'est-elle que le reflet d'un irrationnel refoulé et qui prend sa revanche? Autant de questions que vous posez dans votre dernier livre, L'Appel de l'Ombre, chez Grasset. Thérèse Delpech, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé de philosophie, ancienne élève de l'École normale supérieure à Paris, directeur des affaires stratégiques au CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Vous plaidez pour un retour de l'irrationnel. Étrange plaidoyer pour quelqu'un qui manie avec une grande aisance les atomes, le nucléaire, les stratégies internationales et les épineuses relations diplomatiques avec l'Iran. Vous vivez dans un monde où le rationnel prime, non ?
Il est vrai que d'une certaine façon, on m'attend davantage sur un autre terrain que sur celui que j'emprunte dans ce livre. Mais disons, outre que je ne suis pas du tout prisonnière de ma vie professionnelle.
Heureusement.
Et que Dieu merci, voilà. Et que Dieu merci, j'ai aussi une vie à moi où la littérature, où la psychanalyse joue un rôle très important. Mais outre ceci, il faut quand même reconnaître que la vie internationale n'est pas nécessairement faite de rationalité. Regardez la crise financière, regardez le comportement d'acteurs comme le leader nord-coréen ou Mahmoud Ahmadinejad. Ce sont tout sauf des comportements rationnels. Donc, si vous voulez, j'ai sur ce plan-là une expérience qui est à la fois une expérience professionnelle et aussi l'expérience d'une très grande lectrice, en fait, de la littérature classique.
Vous êtes effectivement une fervente lectrice. Vous lisez toujours plusieurs livres à la fois et depuis de nombreuses années, c'est une nourriture essentielle.
Toujours plusieurs livres à la fois, en général 3 ou 4. Je lis beaucoup de fiction, pas du tout uniquement des essais, énormément de fiction.
Et ces livres, vous les annotez avec les crayons que vous collectionnez ?
Je n'annote pas le livre lui-même, mais disons que je prends des notes sur tous les livres que je lis. Oui, oui, tout à fait. Et je continue à prendre des notes sur, par exemple, les dialogues de Platon, que je lis avec bonheur, de façon très régulière.
Vous collectionnez les crayons, c'est bien juste ?
Je collectionne les crayons, les stylos. Il est très, très dangereux de laisser à ma portée l'un ou l'autre parce que c'est un des domaines où je suis tout à fait kleptomane, vous voyez.
Vous avez un comportement plutôt irrationnel, alors là.
Non, mais c'est sans doute l'envie d'écrire. C'est le goût de l'écriture. C'est le plaisir de faire courir le crayon sur le papier, même si aujourd'hui, je dois dire que je travaille essentiellement avec l'ordinateur.
Alors, ce livre, Thérèse Delpech, surprend. Vous l'avez construit comme une partition musicale avec des intermèdes. Vous avez convoqué des grands mythes occidentaux, des mythes grecs à la Bible, les grands auteurs dont Shakespeare ou encore Melville avec son Moby Dick. Ce sont des textes que l'on oublie trop à votre goût, dont les traces s'effacent dans notre mémoire collective.
Je ne parle pas de l'irrationnel sous la forme, disons par exemple, d'un traité, j'aurais pu le faire, mais je parle de l'irrationalité en faisant revivre des expériences qui sont des expériences qui ont été partagées par des individus comme Ajax dans l'Iliade, comme Hamlet, mais aussi je raconte des histoires qui sont des histoires d'une certaine façon beaucoup plus étranges, comme l'histoire sur l'origine des fusées, où le grand scientifique russe qui s'appelle Tsiolkovsky, qui avait été atteint en fait par une scarlatine quand il était petit, qui n'avait pas pu aller à l'école comme tous ses petits camarades, avait eu comme professeur privé, si je puis dire, un individu, Fiodorov, qui croyait dur comme fer à l'immortalité des âmes, mais dans le sens où elles existeraient dans un autre monde matériel. Et Tsiolkovsky a en fait inventé les fusées assez jeune pour se rendre dans ce monde et voir si son professeur avait raison. Ça paraît invraisemblable, mais c'est tout à fait vrai. Je la raconte pour montrer que même dans le domaine des sciences, où l'on a le temps le moins ce type d'histoire, on en trouve.
Mais l'irrationnel, c'est une notion délicate. Comment le définiriez-vous, ce besoin ? Parce que vous insistez sur ce besoin qu'a l'homme, qu'a la psyché humaine d'irrationnel.
C'est-à-dire, si vous voulez, l'irrationnel, comme je viens de le dire tout à l'heure, moi je m'intéresse davantage à des expériences qu'à des définitions, mais on peut naturellement définir l'irrationnel. L'irrationnel est soit ce qui dépasse la raison, et si vous voulez, là, je pense qu'il est extrêmement important de reconnaître qu'il y a et qu'il y aura toujours un certain nombre de phénomènes, d'expériences que nous ne comprendrons pas, dont nous ne pourrons pas rendre compte. Donc il y a ce qui dépasse la raison. Il y a aussi ce qui met la raison en péril, hein, la folie. Il y a la folie d'Hamlet, dont je dis qu'elle est causée par l'ambiguïté du spectre, dont il ne sait pas si c'est son père ou si c'est un esprit malin qui veut le convaincre de perdre son âme en assassinant Claudius. Il y a la folie de Lear, qui a un caractère cosmique. Donc, si vous voulez, il y a ce qui dépasse la raison, il y a la folie, la déraison, Et puis, il y a aussi l'irrationnel dans le sens, si vous voulez, de l'intuition, de l'imagination, qui est absolument indispensable à la création et scientifique et artistique.
Et effectivement, c'est ça qui est une nourriture nécessaire. Vous évoquez Hamlet, Thérèse Delpech, vous évoquez son destin dans le livre. Hamlet, c'est un des personnages majeurs de Shakespeare. Vous dites qu'il raisonne trop, il ne fait même que cela, vit dans le monde de sa substance. Est-ce que nous vivons comme Hamlet dans un monde sans épaisseur, sans mystère et sans énigme ?
Aujourd'hui, si vous faites une comparaison, ce que l'on peut dire, je crois, c'est que l'on pense trop facilement que le rationnel épuise le réel, ou bien que l'on peut parvenir progressivement à une forme de rationalité sur l'ensemble des sujets. Alors, c'est une croyance qui est manifestement absurde. Nous avons tous les jours, dans la vie quotidienne, dans la vie politique, dans la vie internationale, dans la vie privée, nous avons tous les jours l'exemple du contraire. Une des raisons pour lesquelles je consacre un long chapitre à la psychanalyse, c'est précisément parce que la psychanalyse a montré à quel point les personnages les plus rationnels se trahissaient, en particulier par des lapsus.
Donc l'irrationnel est toujours là, l'intuition, l'imagination, on aurait tendance à les oublier, à les occulter, mais dans votre prologue, vous êtes assez claire, Thérèse Delpech, hein, pas question d'humilier la raison, on n'en a jamais eu autant besoin d'ailleurs, hein, mais à tout vouloir rationaliser, on court le risque de perdre le sens de l'énigme, le sens
voilà,
du mystère
oui,
de
que...
la vie.
Voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si vous voulez, on a besoin en fait... Dans le domaine psychique, on a besoin d'un équilibre entre la raison et puis ce qui la dépasse, ou bien tout ce que l'on fait sur des intuitions, tout ce qui est rendu possible par le recours à l'imagination, tout cela fait partie de l'équilibre psychique. Si l'on tire trop le psychisme du côté de la raison, on va se trouver dans une situation où l'irrationnel va se venger. Et cette vengeance, elle peut se faire avec l'apparition de maladies dans la vie individuelle. Ça a été mis quand même en lumière très bien par Freud et par Jung. Ça peut se, mais aussi, il peut y avoir une vengeance sous la forme de l'apparition de violence. Et ça, on voit ça en particulier... dans des phénomènes plus collectifs.
Mais l'irrationnel se venge déjà, parce que vous dites que l'ombre a un rôle crucial, mais on pourrait vous rétorquer qu'avec la montée de la violence dans le monde, l'ombre est déjà bien trop présente, qu'il faudrait au contraire plus d'ordre, plus de raison pour contrer tous les fanatismes, qu'ils soient politiques ou religieux.
Oui, mais d'ailleurs c'est quelque chose, si vous voulez, que je reconnais parfaitement et dans le prologue et dans l'épilogue, c'est-à-dire que j'indique que le besoin de raison n'est contesté par personne, que le besoin de mettre de l'ordre n'est contesté par personne. En revanche, on sous-estime la façon dont l'irrationnel est indispensable, encore une fois, à l'équilibre psychique. On sous-estime la façon dont l'irrationnel permet d'élever l'esprit, dont il permet d'ouvrir aussi la conscience a des domaines qui sont des domaines extraordinairement riches, comme le rêve, comme le mystère même. Hein. J'ai tout un chapitre au début sur le mystère de la Trinité. Mais ce dont je suis assez convaincue, c'est que nous sommes arrivés au terme d'une expérience de déconstruction, à laquelle d'ailleurs les Français ont prêté main forte, avec toute la génération des années 60, et que maintenant, il faudrait reconstruire autre chose. Et que pour reconstruire autre chose, à mon sens, il faut d'une part bien veiller à l'équilibre psychique dont je parlais, et il faut d'autre part revenir au grand mythe, retrouver ce qu'il y a tout ce que les grands textes de notre culture comportent pour la réflexion et aussi comportent d'émotions.
Mais la violence qui gangrène nos sociétés contemporaines, on vous comprend bien, Thérèse Delpech, ne serait que le reflet d'un irrationnel refoulé et qui se venge. Mais dénoncer le phénomène, c'est insuffisant, écrivez-vous. Comment faire alors ?
Ben oui, d'abord, on peut combattre ce phénomène et on doit le faire dans ses formes les plus radicales et les plus dangereuses. On peut également le dénoncer, mais si vous voulez, ce n'est pas cela qui, d'une certaine façon, va permettre d'y mettre fin. On le sait suffisamment avec le terrorisme. En réalité, il faudrait que les jeunes générations puissent avoir des points de repère qui soient des points de repère autres que ceux que leur fournit la violence. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'on peut décréter.
Mais la maîtrise de la violence est un des objectifs majeurs de toute civilisation, vous le rappelez dans l'épilogue de votre livre. En quoi l'irrationnel que drainent les grands mythes et les grands textes que vous convoquez dans l'appel de l'ombre peut-il nous aider pour construire un avenir qui ne ressemble pas au chaos ?
Parmi les grandes leçons des mythes, il y a la dimension éthique. Les mythes ne sont pas des histoires simplement, si vous voulez, que l'on se raconte de génération en génération parce que cela fait partie d'une tradition. Dans le mythe, vous avez aussi des règles de conduite. Vous avez aussi des références aux limites qui sont celles de l'individu. Vous avez des références aux relations des hommes avec les divinités. Et vous avez tout un ensemble de points de repère pour la conduite de l'homme au cours de son existence. C'est ça qui est riche dans le mythe. Ce n'est pas l'histoire en elle-même, c'est le fait que dans ces histoires, vous avez toute une sagesse humaine.
On vit dans un monde qui change très très rapidement, qu'on comprend assez mal. On ne comprend ni notre environnement, ni ce qui se trame en nous. Dites-vous, y a-t-il un risque réel de chaos que j'évoquais tout à l'heure ?
Il y a d'une part, si vous voulez, l'ensemble des phénomènes naturel. Ça, je crois qu'à peu près depuis un siècle, plus personne sans culture scientifique très sérieuse ne peut suivre ce qui se passe dans le monde scientifique. Donc ça, c'est une raison. Une deuxième raison, c'est que l'environnement politique est un environnement où, comme le monde entier aujourd'hui communique, il faut un niveau de connaissance sur les relations internationales qui n'est pas accessible à grand monde. Et puis, pour ce qui concerne les individus, mais ça, encore une fois, on le sait depuis Freud et depuis Jung, depuis les grands noms de la psychanalyse, l'homme est à lui-même une énigme. Mais cette formulation, qui est une formulation moderne, existait déjà chez les Grecs. Pourquoi est-ce que Socrate dit « connais-toi toi-même » C'est bien parce que cette connaissance ne va pas de soi.
Dans l'appel de l'ombre, Thérèse Delpech, vous ne prenez aucun parti, vous ne délivrez aucune vérité. C'est plutôt une série d'histoires qu'on peut lire comme des contes. Votre ambition, c'est qu'on retrouve un certain nombre des grandes œuvres qui ont nourri notre imaginaire.
Mon ambition est de montrer que l'on peut encore trouver dans ces œuvres à la fois matière à des émotions profondes et matière à des réflexions très substantielles. Voilà mon ambition.
Merci Thérèse Delpech d'avoir passé quelques instants avec nous.
Thérèse Delpech, agrégée de philosophie et directeur des études stratégiques à la Commission pour l'énergie atomique, auteur de L'Appel de l'ombre, était donc l'invitée de Haute Définition. C'est un entretien que vous pourrez réentendre ce soir à 22h40 sur la première ou quand vous le désirez sur Internet en tapant hd.rsr.ch. Et l'on prend encore des nouvelles du ciel. Pascal Bénard.
Les pluies arrosent maintenant la majeure partie de la Suisse romande. Le Valais sera la dernière région touchée par les précipitations. La limite de la neige se situe encore assez haut, à 1800 mètres. En fin de soirée, elle se situera vers 1000 mètres dans les Alpes et à 800 mètres dans le Jura. Mais à ce moment-là, il ne tombera plus grand-chose parce que l'air froid qui va affluer est aussi plus sec. Les températures maximales, une douzaine de degrés sur le plateau, 9 degrés en Valais, ont été atteintes dans la matinée. Le vent de sud-ouest donne de fortes rafales à la montagne. Près de 80 km à l'heure ont été mesurés. mesurés au Diableret. En plaine, des pointes à plus de 50 km/h ont été relevées. Demain, après les averses résiduelles, le matin dans les Alpes, nos régions connaîtront une pause dans les intempéries. Une nouvelle perturbation est attendue dans la soirée. Dans l'intervalle, de belles éclaircies se développeront à partir de l'ouest. Les températures en plaine évolueront de 3 degrés, minimum au réveil, à des maxima voisins de 8 degrés.
La météo avec Solvaxis et son logiciel ProConcept ERP, solvaxis.com.
Vous écoutez Radio 6 Romand de la première 13h.